Bonjour, je suis en compagnie de Pauline Bonny pour son documentaire Restez vivant, qui est présenté dans le cadre du Festival du cinéma méditerranéen de Bruxelles et sortira le 6 décembre prochain. Pauline, bonjour.
Bonjour.
Restez vivant est le résultat d'un voyage en Égypte qui a commencé en 2010 et qui s'est poursuivi jusqu'en 2014, si je ne m'abuse. Pourriez-vous revenir brièvement sur votre parcours et nous expliquer le contexte dans lequel ce documentaire a émergé?
En fait, je suis arrivée en Égypte en 2008.
Mais
c'est correct pour la période de prise de vue et sur ce sujet-là. Mais en fait, je suis arrivée en 2008 pour apprendre l'arabe. Au bout d'un an, mon arabe, il était très moyen. J'avais fait aucune photo, je suis photographe à la base. J'étais complètement submergée parce que je découvrais là en Égypte. Et du coup, j'ai décidé de rester, de m'installer là-bas et travailler là-bas comme photographe de presse. Donc en 2009, je me suis installée comme photographe indépendante au Caire. Et j'ai travaillé sur des sujets personnels en parallèle des commandes que j'avais pour les magazines et pour la presse. Et un de mes sujets perso en photo était sur les jeunes activistes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, par exemple, Souleifa, qui est un des protagonistes du film. Et elle, je l'ai rencontrée en 2010. Mais j'ai commencé à la filmer un peu plus tard. Et je la photographiais depuis 2010. Voilà. Donc le documentaire, il est né de mon travail photo, en fait. Et d'un web documentaire que j'ai co-réalisé en 2012, qui revenait sur le début de la révolution, est-ce que ça avait changé dans la vie intime de quatre personnages. Et c'est ces mêmes personnes que j'ai retrouvées en 2014 quand j'ai commencé le projet de ce documentaire. Et j'avais donc à l'époque du web documentaire, on avait pas mal d'archives vidéo qu'on n'avait jamais utilisées, et donc je me suis replongée là-dedans, et de cette matière-là, j'ai commencé le film en 2014, et je les ai filmés pendant 2 ans, en fait, jusqu'en janvier 2016.
Mais lorsque l'on entend les témoignages de ces quatre jeunes, on a l'impression d'être confronté à une jeunesse complètement déboussolée, dépressive, tourmentée, en plein doute, et surtout submergée par la désillusion. Au départ d'ailleurs de votre documentaire, il y a une intervenante qui dit « on est tous devenus cinglés ». Iriez-vous jusqu'à dire que le régime actuel, qui est extrêmement répressif, est parvenu jusqu'à annihiler leur liberté intérieure?
Oui, je pense qu'il y a une certaine forme même d'autocensure. Je réfléchis beaucoup à ça parce que la question maintenant, c'est est-ce que ce film est montrable en Égypte, par exemple, et ne porterait pas atteinte à leur sécurité et vient se mettre en contradiction avec ça, l'idée de la liberté et de cette parole qui est exprimée presque comme un dernier souffle, encore une fois, quand même, parce qu'il y a quand même dans leur parole une certaine résistance et révolte qui est toujours là, même s'il y a cette désillusion. Et donc je me pose beaucoup cette question et je me la pose en termes de leur existence même est niée parfois, j'ai l'impression, et c'est tout l'objet de ce film, c'est de les faire exister encore à nos yeux. On a arrêté de les regarder, en fait.
Oui, justement, lorsqu'ils sont confrontés aux images de leur passé et au moment de la révolution en particulier, tous témoignent du fait d'avoir été emporté dans un mouvement qui les dépassait totalement. Une force supérieure qui les avait amenés à agir avec une certaine forme d'euphorie. Mais est-ce que ce n'est pas un peu là où se situe le nœud du problème, en ce sens qu'on a l'impression que cette révolution n'a pas été pensée? Elle n'a pas été suffisamment réfléchie quant à une reprise du pouvoir, ou même finalement la question de la liberté n'a pas été suffisamment pensé.
C'était un mouvement spontané, évidemment, et c'était pas quelque chose d'imposé, de fomenté à l'extérieur, et donc ça, c'est ce mouvement spontané, aussi beau qu'il puisse être, et aussi imparfait, parce que oui, effectivement, il n'y avait pas de qu'est-ce qu'on fera après. Ce qui unissait les gens à ce moment-là, pendant l'occupation de la place Tahrir, c'était que Moubarak dégage, mais une fois qu'il est parti, qu'est-ce qu'on fait? Et dès le début, d'ailleurs, ça a posé problème, parce que comme ce n'était pas organisé comme mouvement, c'est l'armée qui a assuré la transition démocratique. Et déjà là, il y avait un couac. Ce n'était pas possible que l'armée assure une transition démocratique, en fait.
Oui, mais justement, la jeunesse est tenue doublement responsable de la situation actuelle. Parce que, primo, ils sont tenus responsables d'avoir amené au pouvoir des responsables politiques, les frères musulmans, qui ont échoué dans la reprise du pouvoir. Et secundo, d'avoir contribué au massacre des frères musulmans et d'avoir favorisé le coup d'État qui s'en est suivi. Et ceci, j'ai envie de dire, soulève plusieurs questions. Le peuple, dans son ensemble, et là je ne parle pas seulement de la jeunesse, était-il vraiment prêt, ne serait-ce qu'à envisager le changement? Ça, c'est la première question. Et se pose aussi la question de savoir ce que veut le peuple et la jeunesse actuellement.
Pour répondre à la première question, je pense que Souleyfa y répond à ma place dans le film quand elle dit que tout ça n'a quand même pas été vain, que c'est pas qu'ils ont rien, ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont rien réussi, et qu'elle dit qu'en fait simplement que les gens puissent aujourd'hui les tenir pour responsables, les accuser, les insulter, déjà ça est énorme en fait, parce qu'avant ils n'avaient pas cette liberté-là de parler, de donner leur opinion, d'exprimer leur avis, et que c'est eux qui leur ont appris ça, que c'est les jeunes révolutionnaires qui ont appris au peuple égyptien, alors ça paraît très caricatural, mais d'élever la voix en fait. Et je partage sa vision là-dessus. Et après,
c'est un apprentissage très douloureux de la liberté.
Ouais, bah oui, bien sûr, parce qu'ils se rendent compte au fur et à mesure de leurs propres erreurs. Et je crois que ça met, enfin, c'est ce que le film met aussi en exergue, c'est que évidemment, ils se rendaient pas compte que ça allait être que les conséquences pouvaient être aussi violentes et dramatiques, quoi. Parce qu'ils sont responsables. J'ajouterais une troisième responsabilité qu'ils portent, et ça, et là, c'est eux qui la portent et qu'ils se l'infligent presque. C'est les morts, les martyrs, leurs amis qui sont en prison, leurs amis qui sont morts, leurs amis qui sont en exil. Ils se sentent coupables pour ça, même plus que responsables.
Oui, justement, par rapport à l'exil, il y a aussi cette question, enfin, cette question qui est un dilemme pour beaucoup, de savoir, faut-il rester en Égypte et continuer à lutter de l'intérieur, ou au contraire, faut-il partir, car les chances de changement semblent infimes. Et sur ce point, les avis divergent quand même amplement. Et on ne peut s'empêcher de soulever le paradoxe du gouvernement actuel, qui d'une part ne veut plus voir ni entendre parler de cette jeunesse, mais qui, d'autre part, l'empêche de quitter le pays, mm-hmm. ce qui est quand même assez, assez paradoxal comme position.
Complètement.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce qui paralyse le plus le pays, et ça dans son ensemble, tant du côté des gouvernants que des gouvernés, c'est la peur? La peur de...
Du changement.
La peur du changement, la peur de la réaction, mais aussi la peur de la part des gouvernants d'être de nouveau confrontés à une forme d'insurrection qu'ils ne pourront plus maîtriser.
Oui. Et c'est très présent depuis le début, ça, en plus, cette peur-là de l'instabilité. Un mot qui revenait très souvent, c'était istikrar. Et ça veut dire la stabilité en arabe. Et c'est ça, quand ça change, quand les choses changent, évoluent, c'est différent. On ne sait pas ce qu'il va y avoir à la place de ce qu'on essaye de mettre dehors ou de changer. Et ça, ça peut faire peur, ça fait peur. Et la peur aujourd'hui, elle a évolué vers... la peur de l'inconnu, elle s'est transformée en une peur de la part des jeunes ou de la population, une peur de la répression, parce que c'est vraiment une répression sanguinaire, et oui, ça traumatise les gens. C'est une politique de la terreur, même j'irais jusqu'à dire ça. Et l'armée, je pense qu'ils sont aussi très mal pris finalement, parce que c'est comme si ça échappait à leur contrôle et qu'il y avait des soubresauts de mécontentement l'année passée quand ils ont essayé de rétrocéder les îles de Tiran et Sanafir à l'Arabie Saoudite. Il y a eu un début de soulèvement, ils ont réagi à ça avec une violence inouïe. En un quart d'heure, les manifs étaient dispersés à coups de balles réelles. Parce qu'ils... En fait, je pense pas qu'ils seraient aussi répressifs si la jeunesse n'était pas encore une menace pour eux. Donc c'est qu'ils ont peur de la mobilisation possible, de la force de changement que représentent encore ces jeunes aujourd'hui. et de l'influence qu'ils peuvent avoir, parce que je crois qu'ils ont essayé vraiment de briser ça, de briser l'image que la jeunesse avait arrachée en mobilisant les gens dans la rue en 2011, et que le gouvernement actuel, avec sa propagande médiatique notamment, a réussi à casser l'image des jeunes auprès de la population égyptienne, et que ça change, c'est en train de changer un peu. Et ça doit leur faire peur.
Justement, vous parliez des jeunes qui étaient encore emprisonnés. C'est un fait qui est souligné par une des jeunes femmes qui intervient dans votre documentaire. Et elle souligne le nombre de femmes, notamment. Est-ce qu'il y en a plus ? Ça, c'est ma première question, que d'hommes. Et qu'en est-il aujourd'hui de ces personnes qui sont emprisonnées ?
Je crois qu'il y en a... Enfin, je suis quasi sûre même qu'il n'y en a pas plus que d'hommes emprisonnés. Mais par contre, je pense qu'elle le souligne parce que c'est quand même assez nouveau qu'il y ait autant de femmes en prison. Je parle par rapport à Moubarak, au temps de Moubarak, il n'y avait quasi pas de femmes en prison. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle le souligne. Et c'est très difficile d'avoir des chiffres sur les personnes qui sont actuellement emprisonnées en Égypte, en fait. Il y a un phénomène assez de plus en plus répandu, malheureusement, aujourd'hui, c'est le phénomène des disparitions forcées. Donc des gens sont arrêtés, mais ils n'ont pas de situation juridique claire, ils disparaissent des radars, et on les retrouve, de 15 jours à des années plus tard, ils apparaissent en prison, ou alors morts, ou ils ne réapparaissent jamais. Mais du coup, c'est très difficile, la situation est quand même complètement obscure, c'est très difficile d'avoir des chiffres clairs, une vision claire de ce qui se passe dans les prisons égyptiennes. Et il y a des prisons où il n'y a même pas d'accès. Il y a des gens, on sait qu'ils se retrouvent dans ces prisons-là parce que certaines personnes qui en sont sorties ont témoigné. C'est des sortes de prisons secrètes, sur des bases militaires, notamment. Et ça les révolte. Et en fait, je pense qu'il y a aussi... Donc Souleyfa en parle à la fin, effectivement, de ces femmes en prison, qui, elle, la révolte de ces femmes et de ces jeunes en prison. Il y a aussi énormément de jeunes qui ont été emprisonnés récemment ou victimes de disparitions forcées, de très jeunes. Là, je fais un travail sur les disparitions forcées pour l'instant, et un des plus jeunes intervenants que j'ai dans ce travail-là, il avait 14 ans quand il a été arrêté la première fois. Et donc ça la révolte, cette histoire de femmes et de très jeunes gens en prison. Mais je ne sais plus où je voulais en venir par rapport à cette question. Oui, il y a aussi Isra dans le film qui, elle, a fait de la prison. Elle intervient dans le Skype avec Imen. Oui. Elle a passé 15 jours, elle a été victime d'une disparition forcée pendant 15 jours, et puis elle a réapparu en prison, et elle a passé quand même 9 mois en prison. Et en fait, les femmes en prison, c'est à double tranchant pour le gouvernement actuel, parce que d'un côté, ça les fragilise. Parce qu'avec Isra, un cas comme Isra, ça a éveillé une certaine partie de la population à se dire, mais tiens, cette jeune femme, c'est pas une terroriste, elle est pas en prison pour les bonnes raisons. Et sur le fait qu'en fait, derrière cet argument du tous les gens qui sont en prison, parce qu'en fait il y a une menace terroriste qui est bien réelle, hein, en Égypte, et ça a un peu sauté, quoi, parce que Isra, il y a des médias qui ont parlé pour elle, on s'est rendu compte qu'elle, c'était pas vraiment possible qu'elle soit une terroriste comme ils voulaient bien le faire croire, quoi. Et donc avec des cas comme ça, et le plus souvent c'est autour de 4 femmes que l'opinion publique change un peu ou se dit, bah tiens non, là c'est quand même pas normal. On peut pas tout faire sous couvert de menaces terroristes, quoi. Et donc oui, c'est l'emprisonnement de femmes, en fait, ça permet, je pense, de faire bouger un peu les lignes.
Oui, justement, vous filmez également beaucoup la quotidienneté de ces jeunes. Mm-hmm. Vous y accordez même une place assez importante. Est-ce que c'est une manière de nous dire, ils continuent à vivre, et de là vient le titre de votre documentaire, Restez vivant coûte que coûte.
Oui, oui. Totalement. Et dans une vie, je pense que... Pourquoi la vie quotidienne? Parce que je pense qu'il se fait, ce qui peut à un moment donné questionner d'une manière personnelle, enfin, nous faire questionner nos idéaux, c'est de ne plus être capable de les appliquer, de ne plus être capable de vivre pour ces idées, parce qu'on doit mener sa vie quotidienne, on doit mener sa vie de famille, on doit construire un foyer, on doit trouver un taf, voilà. Pour des raisons très terre-à-terre, en fait, on laisse un peu de côté... son idéal. Et c'est ça que j'avais envie de raconter aussi avec ce film. Et le titre « Les Aïchines », il vient d'une phrase que j'ai entendue au Caire quelques fois là, dans mes plus récents voyages. On cherchait un titre et bon, j'avais « Génération Tahrir » pour le livre, mais je trouvais que c'était trop... trop grand, trop global. J'avais envie vraiment de parler de ces personnes-là, de ce qu'elles vivaient au quotidien, ces quatre personnes. Et j'entendais au Caire, les gens recommençaient un peu à parler contre Sissi, à être mécontents, et justifiaient leurs paroles en disant « Keda keda meyetine », comme ça on est déjà mort. De toute façon on est déjà mort, donc on pourrait aussi juste bien donner notre avis, quoi. Et de là je me suis dit ben non, en fait vous êtes super vivants. Et allez, l'inverse de Keda Keda Mayatine en arabe, c'est Les Aïchine, encore vivant, quoi, toujours vivant. Et je trouvais que rester vivant, il y avait peut-être quelque chose de plus actif encore qui me plaisait là, dans le fait qu'il résistait quand même toujours.
Il y a une forme d'espoir.
Oui, j'espère.
Oui, ben c'est sur ces mots lumineux que nous allons conclure. Je vais rappeler que votre film sortira le 6 décembre à Bruxelles au Vendôme et à Charleroi au Quai 10. Qu'il sera également possible de le découvrir au cinéma MED ainsi que dans le cadre de projections débat où vous serez présente et accompagnée de deux protagonistes du film, si je m'abuse.
Ouais.
Ça se passera à Liège, à Bruxelles, Namur, Charleroi, Mons, un véritable tour de Wallonie. Et les dates figureront sur le site de Cinéfemmes. Je vous remercie.
Super, merci à vous.